Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'humanitaire en partenariat avec la revue internationale et stratégique. Après de nombreuses mutations, le secteur humanitaire a fini par se cristalliser autour d'un modèle unique inspiré par des valeurs et des modes opératoires occidentaux. L'émergence d'organisations non gouvernementales du Sud et les mutations de la scène internationale contraignent aujourd'hui les structures de solidarité internationale à repenser leur positionnement et leur rôle. État des lieux de l'action humanitaire, des enjeux qui sont les siens, de sa capacité à se remettre en question et à redéfinir peut-être un nouveau cadre d'engagement. Nos invités par téléphone, Maria Gabrielle Saint-Gimbert, directrice de recherche au Peace Research Institute d'Oslo. Bonjour.
Bonjour.
Stéphanie Stern, chercheur à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Maietta, directeur du département d'analyse stratégique d'action contre la faim et chercheur associé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Vous le dites donc en introduction du dossier consacré à l'humanitaire dans la dernière édition de la revue internationale et stratégique, l'intervention du travailleur humanitaire occidental auparavant sollicité et reconnu pour ses compétences n'est plus aujourd'hui systématiquement recherchée et est souvent questionnée. Son action n'est plus perçue comme la solution, mais comme une option parmi d'autres. Le bénéficiaire de l'aide devient sélectif, exigeant et questionne la pureté des intentions des organisations internationales non gouvernementales. À cela s'ajoute la structuration des sociétés civiles et le refus de l'ingérence internationale dans la résolution des problèmes nationaux. Maria Gabrielle Saint-Gimbert, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et la question, c'est comment est-ce que l'on en est arrivé là?
Je suis tout à fait d'accord avec cette image que vous dessinez. Je pense que les grandes questions de l'humanitaire, c'est-à-dire comment préserver une aide humanitaire neutre, impartielle, etc., c'est des questions qui se posent comme jamais avant. Ce ne sont pas des nouvelles questions, c'est des questions que les acteurs humanitaires ont toujours dû gérer dans différents types de contextes de crise et de conflits. Mais c'est une question qui se pose d'une nouvelle façon sur différents terrains de conflit aujourd'hui. C'est notamment à voir avec le nombre d'acteurs qui interviennent, les différents types d'acteurs humanitaires, mais aussi les différents acteurs des conflits qui vont poser différents types d'exigences, etc. Et je pense aussi que dans le grand contexte de la guerre contre le terrorisme, avec de plus en plus de conflits qui sont liés de différentes façons à cette guerre contre le terrorisme, c'est ces questions de neutralité et d'impartialité pour les acteurs humanitaires se pose effectivement d'une nouvelle façon.
On développera la question et l'impact finalement de la guerre contre le terrorisme. Michel Maietta, je me tourne vers vous. Donc ces principes humanitaires qu'évoquait à l'instant Maria Gabrielle Saint-Gimbert, qu'on peut rappeler, hein, impartialité, neutralité, humanité, indépendance, pourquoi ces questions se posent-elles de façon nouvelle aujourd'hui et de façon plus pointue?
Parce que le paradigme, en fait, qui est un peu un paradigme doctrinal, idéologique de l'humanitaire, il est quand même très vieux. Il a été créé le lendemain des batailles d'indépendance d'Italie. On est sur la bataille de Solferino, on est au centre en fait, d'un système de relations internationales qui est défini westphalien, où effectivement il y a des règles très précises. Et ce système, il est complètement tombé. On peut même placer ce moment particulier avec l'intervention en Irak en 2001. Donc, on a un système des relations internationales qui a complètement changé, et donc des nouvelles règles s'imposent, et un nouveau paradigme doit s'imposer.
Et est-ce qu'on a une idée de ces règles qui doivent s'imposer, juste pour comprendre vers où l'on doit aller, Michel Maietta?
Bien sûr. Nous avons, dans le cadre de nos recherches, notamment, nous travaillons beaucoup avec les sociétés civiles émergentes en Afrique subsaharienne, et notamment dans le cadre d'un travail de recherche en Afrique de l'Est, en travaillant avec des structures communautaires, des réseaux communautaires et des leaders communautaires. Il y avait des nouveaux principes qui émergeaient, qui aujourd'hui nous parle, parce que c'est aussi des mots qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est la justice sociale, c'est aussi l'indépendance et l'autonomie qui va avec, le respect et la dignité en fait des populations et l'égalité.
Est-ce que, je me tourne vers vous, Stéphanie Stern, pour bien comprendre, est-ce que les structures humanitaires, finalement, ont failli quelque part, ou c'est le contexte mondial qui fait aujourd'hui qu'elles sont obligées d'évoluer?
En fait, je crois que c'est un peu des deux, dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, le contexte a évolué. On est dans un monde qui est de plus en plus chaotique, avec un nombre de crises simultanée d'intensité extrêmement forte, de plus en plus importante. Aujourd'hui, on a 5 crises majeures simultanées, et alors que le système international avait été conçu pour pouvoir en gérer 2 en même temps. Donc voilà, déjà, on se retrouve effectivement dans un contexte qui est extrêmement tendu et qui se complexifie parce que à côté de ça, on a effectivement aujourd'hui une multipolarisation du pouvoir et une fragmentation aussi des différentes entités qui se confrontent. Et donc, du coup, voilà, c'est un contexte d'intervention qui est de plus en plus compliqué pour tous les acteurs, que ce soit les ONG d'ailleurs, ou les États, ou les sociétés civiles des différents pays. Et puis, à côté de ça, on a effectivement, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté de réappropriation très forte de la part à la fois des États, des sociétés civiles. C'est intéressant de regarder sur, justement, qu'au Népal et en Indonésie, sur les 2 dernières grosses crises humanitaires, les États ont voulu coordonner et chapeauter l'ensemble de la réponse humanitaire internationale. Donc voilà, on voit déjà effectivement une tendance très forte à la réappropriation et à la volonté de reprendre le lead sur les enjeux sociaux des pays concernés. Et puis à côté de ça, donc du coup effectivement dans ce contexte nouveau, les ONG internationales sont obligées aujourd'hui de se remettre en question. Parce que voilà, le contexte a changé et du coup, comme on est l'humanitaire, comme son nom l'indique, on est sur de la gestion de l'humain, sur la gestion des vulnérabilités, les vulnérabilités aujourd'hui évoluant, il est nécessaire aujourd'hui effectivement que le système international humanitaire dans son ensemble arrive à évoluer aussi.
Alors, concernant les 5 crises majeures que vous évoquiez, Stéphanie Stern, et vous en avez nommé 2, le Népal et l'Indonésie, parmi les 3 autres, il y a la Syrie. Je me tourne vers vous, Maria Gabrielle Saint-Jambert. Finalement, la Syrie, c'est un vrai tournant aussi dans cette évolution, cette obligation ou contrainte d'évolution pour les organisations humanitaires.
Oui, effectivement, et surtout en termes d'accès au terrain pour les acteurs humanitaires, et c'est en lien avec l'accès que je mentionnais aussi, ces principes de neutralité et d'impartialité, parce que ce sont des principes essentiels à respecter afin que les acteurs humanitaires puissent avoir l'accès au terrain, puisque s'ils sont perçus comme étant des parties en conflit, étant soutenant une partie plutôt qu'une autre, cela va compromettre leur accès aux victimes. Le conflit syrien est un terrain qui est particulièrement difficile d'accès pour les acteurs humanitaires. Et je pense que la crise syrienne montre aussi d'une façon encore plus accentuée que d'autres crises auparavant, remet en question cette idée qu'on a longtemps soutenu pendant les années 90, les années 2000, qu'il faut que la communauté, la dite communauté internationale, soit consciente de ce qui se passe, que la communauté internationale voit les images des horreurs afin qu'il y ait une intervention, qu'il y ait une réaction afin d'arriver venir en aide aux victimes. Cette fois-ci, on voit un conflit qui a été beaucoup médiatisé, même si parfois l'intérêt médiatique aurait pu être plus fort encore. Mais on voit une crise de laquelle on a vu beaucoup d'images, effectivement. On a vu beaucoup de témoignages de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas d'automatisme, en quelque sorte, en termes de réaction, d'intervention, puisqu'il y a tellement d'autres contraintes dans ce conflit en particulier. Donc ça remet en question cette idée qu'il suffit que la dite communauté internationale soit témoin de ce qui se passe pour qu'il y ait une réaction. Et c'est une question qui n'est pas, donc comme je disais, c'est pas seulement une question d'intérêt ou pas d'intérêt de la part des organisations, de la part des journalistes, etc. Mais c'est aussi une question de pourquoi on a vu tant d'images de ce conflit. C'est peut-être tout autant le rôle qu'a joué les acteurs même du conflit, partager des images, des vidéos, par le biais des nouvelles technologies de communication et d'information qui ont diffusé voilà, les images de ce qui se passe en Syrie. Mais c'est un peu, donc on se retrouve un peu dans une situation où on est bien conscient de ce qui se passe, mais où il est difficile d'intervenir.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Difficulté à intervenir, insécurité de plus en plus grande. On l'évoquera, c'est l'émergence des ONG du Sud. C'est que finalement, les ONG du Nord n'ont plus le monopole des interventions humanitaires. Et puis un autre aspect, Michel Maietta, qui me semble important, les nouvelles technologies, elles ont changé les équilibres de pouvoir entre ceux qui apportent et ceux qui reçoivent de l'aide.
Ils ont changé et permettent certainement aussi de rendre l'accès plus possible, mais il est question toujours de est-ce qu'on peut accéder à ces technologies et jusqu'à quel point du coup on peut les mettre en place. On a beaucoup parlé, par exemple, voilà, aujourd'hui en Syrie, on a 4,8 millions de personnes qui ne peuvent pas accéder à l'aide parce que ce sont des déplacés internes dans des zones à haute insécurité. Alors on parle effectivement, mais pourquoi pas, on n'utiliserait pas des drones pour délivrer de l'aide, pour délivrer des biens de première nécessité. Pourquoi pas ne pas utiliser des drones quand il faut dans les 24 heures établir une carte des vulnérabilités dans des crises de désastres naturels. C'est des vrais défis technologiques qui requièrent aussi beaucoup de moyens financiers. Des ONG sont en train d'y investir beaucoup. Il y a des partenariats privés et organisations humanitaires qui sont en train de se mettre en place. Et aussi, au niveau des ONG du Sud, il y en a déjà certaines qui utilisent les moyens technologiques pour effectivement répondre à des réalités sociales ou sociopolitiques. C'est le cas, par exemple, ça a été le cas au Kenya l'année passée avec des ONG locales qui ont utilisé les réseaux sociaux pour mettre en place un système d'alerte précoce, le cas où il y avait des désordres sociopolitiques.
Alors, j'ai une question. Quand on parle de crise de l'humanitaire, ou en tout cas de remise en question de l'humanitaire, est-ce que finalement, cette remise en question et cette crise, elle ne concerne pas uniquement les ONG du Nord, je me tourne vers vous, Stéphanie Stern, avec d'aucuns qui estiment finalement que le problème des ONG aujourd'hui, c'est de lâcher le pouvoir et d'être autre chose que des conduits de financement européens. La crise, c'est uniquement pour les ONG du Nord ?
Je pense que pour avoir une crise, il faut deux parties déjà ou plus. Donc effectivement, aujourd'hui, le gros du problème vient des ONG du Nord avec effectivement ce besoin de lâcher prise et d'arriver sur une approche plus inclusive et plus participative, ça c'est évident. Et puis on voit aussi effectivement que aujourd'hui les ONG du Sud arrivent à une certaine maturité qui font que aujourd'hui elles peuvent prendre la relève. Et c'est ça du coup qui est intéressant, c'est que on se retrouve dans une situation où effectivement on arrive à une certaine maturité dans l'évolution et la croissance à la fois des États, de leurs institutions et des sociétés civiles. Avec on se retrouve avec des pays en Afrique ou en Asie, etc., où les sociétés civiles aujourd'hui ont suffisamment de capacités d'intervention et de réaction, de protestation, de compréhension, etc., pour pouvoir justement jouer un rôle majeur. Donc le challenge aujourd'hui pour les ONG du Nord, ça va être effectivement de repenser leur intervention et de réfléchir à quelle pourrait être leur valeur ajoutée pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, si je puis dire, et que du coup, on capitalise sur les complémentarités et sur ce que chacun apporte et l'intérêt de chacun. Donc c'est vrai que très logiquement, les ONG du Sud ont une meilleure compréhension des contextes locaux. Et donc, logiquement, il est évident que, je pense qu'à terme, elles s'occuperont, elles, beaucoup plus de tout ce qui est mise en place des programmes, etc. Parce que, voilà, elles ont la compréhension des systèmes culturels, des systèmes sociaux, des enjeux géopolitiques locaux, nationaux, etc. Voilà, je pense qu'on va se diriger vers une nouvelle redistribution effectivement des activités et des expertises de chacun, avec des ONG du Sud qui vont être beaucoup plus sur la mise en place, la programmation en tant que telle, et à mon sens, les ONG du Nord qui vont devoir justement développer renforcer un autre type d'expertise. Certaines ONG, si on prend Save the Children, c'est une ONG qui a 100 ans d'expérience, plus de 100 ans d'expérience. Donc bien évidemment qui a capitalisé pendant tout ce temps-là une expertise technique extrêmement importante et extrêmement riche et intéressante. Et du coup, je pense qu'on parlait des technologies, je pense que justement l'enjeu pour les ONG du Nord, ça va être justement d'arriver à faire un peu ce mélange entre leur expertise passée et ces nouvelles technologies qui arrivent, ces nouvelles formes aussi d'organisation, ces nouvelles formes d'aide. On en parlera certainement plus tard, mais effectivement aujourd'hui on arrive sur des modes, il y a le développement de l'entreprise sociale, l'entreprise solidaire, donc on a des nouveaux modèles économiques aussi d'action des ONG, enfin d'action sociale qui se mettent en place. Et du coup, je pense que c'est aux ONG du Nord justement un peu de montrer la voie et d'avoir un peu ce côté un peu visionnaire, innovant, pour participer à la régénérescence de du secteur humanitaire en général et pour pouvoir jouer un peu son rôle de leader.
Si je peux ajouter, en fait, sur imaginez-vous dans la crise actuelle, par exemple, des migrants à Calais, qu'à un certain moment, vous avez une ONG chinoise qui vient à Calais et qui va répondre à l'urgence. Comment vont réagir les ONG françaises? Comment vont réagir l'État français? En fait, en posant cette simple question, on a toute l'ampleur de la crise de gouvernance du système humanitaire d'aujourd'hui.
Maria Gabrielsen-Gimbert, vous partagez ce qui vient d'être dit sur cette relation et cette interconnexion finalement entre ONG du Sud et ONG du Nord?
Oui, oui, tout à fait. J'aime bien cette question que pose Michel Maïetta en disant que dirions-nous ou que dirait l'État français, le gouvernement français si une ONG chinoise venait pour répondre à l'urgence à Calais. Et je pense que c'est une bonne façon de prendre conscience du contexte sensible qu'il y a souvent quand les ONG du Nord interviennent dans d'autres contextes de conflits, des contextes très sensibles. Et l'importance de l'entrée en jeu, c'est ici que se joue tout l'enjeu du lien entre les acteurs, les ONG du Nord et les ONG du Sud, parce que les ONG du Sud peuvent avoir justement joué un rôle important dans la distribution de l'aide, la conception aussi de l'aide pour savoir quels sont les besoins. Ils sont parfois plus proches des terrains de conflit, des terrains de où les besoins se présentent et peuvent donc apporter aussi une valeur ajoutée dans cette conception et des besoins.
Alors, il y a pas mal de questions autour de la façon dont ce débat évolue pour cette émission. Donc, on l'a bien compris, Stéphanie Stern, vous le développiez, nécessité d'une redistribution des rôles et d'être peut-être plus imaginatif. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est finalement le degré de communication qui existe aujourd'hui entre les ONG du Sud et les ONG du Nord. Et est-ce que les ONG sont toutes d'accord entre elles sur les défis de l'action humanitaire? Stéphanie Stern.
Non, je pense que toutes les ONG ne sont pas d'accord sur effectivement l'analyse de la situation actuelle. Il y a certaines effectivement qui parlent de crise identitaire profonde. Il y en a d'autres qui diront que nous sommes dans une simple mutation normale et saine, on va dire, du système qui ne se sclérose pas et qui essaye de se renouveler. Et puis il y a d'autres personnes qui considèrent que au contraire le secteur humanitaire se porte bien. Que les financements sont florissants, que le nombre de bénéficiaires touchés est de plus en plus important. Donc je pense qu'effectivement, il y a une certaine palette de compréhension par rapport à la situation actuelle.
Michel Maïetta, je me tourne vers vous juste pour terminer cette première partie d'émission. On sait que l'Union européenne est très présente dans les financements d'organisations humanitaires. Quels sont au Sud les grands acteurs?
Alors, il y a aussi l'Union européenne qui est présente dans le Sud et qui, effectivement, a développé de plus en plus des mécanismes pour intégrer les réalités locales, donc la société civile dans les différents États dans lesquels il y a une représentation européenne. Il faut même, moi je dirais que sur ce point, l'Union européenne a été même avant-gardiste dans le sens que de plus en plus, même les opportunités de financement des ONG occidentales requièrent en fait des partenariats avec des ONG locales. Je trouve que c'est très sain et qu'effectivement pousse le système dans le bon sens de la collaboration. Il reste que les ONG locales ne peuvent donc très rarement peuvent accéder à des fonds de l'Union européenne. Et que donc la plupart des fonds passent par le canal des ONG occidentales. Et c'est clair que c'est une vraie réflexion à voir comment on peut mettre plus de fonds à disposition pour les sociétés civiles dans le monde.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Maria Gabrielle Saint-Gimbert, directrice de recherche au Peace Research Institute d'Oslo, Stéphanie Stern et Michel Maietta, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les défis de l'humanitaire. Aujourd'hui, nous retrouvons par téléphone Maria Gabrielle Saint-Gimbert, qui est directrice de recherche au Peace Research Institute d'Oslo, Stéphanie Stern, chercheur à l'IRIS, et Michel Maietta, directeur du département d'analyse stratégique d'action contre la faim et chercheur associé à l'IRIS. Maria Gimbert, je me tourne vers vous. On a évoqué dans la première partie de l'émission la question des financements de l'humanitaire aujourd'hui, qui, en dépit des évolutions et de l'émergence d'organisations du Sud, eh bien ces financements se font beaucoup, en tout cas ont beaucoup comme point de départ les pays du Nord. Et j'évoquais la question de la communication entre les ONG du Sud et les ONG du Nord. Finalement, cette question du financement, elle est importante pour bien comprendre ce maintien, d'une certaine manière, de l'hégémonie du Nord par rapport au Sud. Est-ce que ça complique précisément la question de la communication ?
Oui, donc juste pour revenir sur cette question des financements, on voit effectivement de plus en plus d'acteurs, des ONG du Sud, qui jouent un rôle de plus en plus important dans différentes crises humanitaires, notamment on voit le rôle de la Turquie en Somalie, qui joue un rôle important là-bas. On voit des ONG brésiliennes qui ont joué un rôle très important, notamment en Haïti. Voilà, je pourrais énumérer bien d'autres exemples d'ONG du Sud et des communautés d'ONG du Sud qui jouent un rôle de plus en plus important. Mais souvent, la somme de leur contribution financière n'est pas aussi importante, leur financement propre. Souvent, ces ONG-là reçoivent aussi des sommes consistantes de la part de gouvernements européens, des gouvernements norvégiens, suédois, des Pays-Bas notamment, aussi des gouvernements canadiens, qui soutiennent de nombreuses ONG du Sud. Qui est aussi une façon pour ces gouvernements-là d'accéder à d'autres acteurs du Sud, qui est aussi une façon de bâtir des liens, des alliances avec des acteurs parfois plus proches des terrains de crise.
Michel Maietta.
Oui, en fait, c'est un thème relatif. C'est relativement peu par rapport à ce que reçoit en fait le système humanitaire occidental. Mais il n'y a pas seulement une question de flou de financement, c'est aussi une question de cadre des financements. Souvent, on impose aux ONG locales aussi des règles administratives qui ne sont pas adaptées à leur, disons, à leur entité, à leur structure. On leur impose donc des règles draconiennes, une approche paternaliste aussi de l'aide qui fait que, effectivement, s'il y a des erreurs ou éventuellement des imprécisions dans la comptabilité, mais soudainement on coupe donc le financement. Il y a des expériences de ce type, voilà, il y en a nombreuses. Je me rappelle très bien, quand je travaillais dans le VIH SIDA, d'une structure en Afrique subsaharienne de 300 000 euros de financement annuel à 2 millions. Donc déjà, ça, c'est énorme en termes de transformation, d'évolution. Et soudainement, le bailleur de fonds, qui naturellement avait fait confiance autour des 2 millions, avait imposé des telles règles draconiennes qui soudainement a coupé donc le robinet et a amené à cette structure à s'autodétruire. Donc vous voyez, il y a une question du flou financier, mais aussi des règles qui régissent ce flou. Et je pense qu'il faut absolument faire un appel à que ces règles soient adaptées à des réalités aussi locales, qui sont celles d'une société civile qui émerge, qui n'est pas du tout comparable avec celle des ONG occidentales. Et il faut naturellement mettre en place des mécanismes qui leur permettent d'y accéder plus facilement.
Donc un décalage, c'est cela qu'il faut entendre, Stéphanie Stern.
Oui, et puis en même temps, je pense qu'il y a aussi une certaine créativité des ONG du Sud. Et j'aimerais bien reprendre l'exemple de BRAC, qui est une ONG bangladeshi, qui elle, justement, est un modèle extrêmement intéressant parce que 80% de ses dépenses sont autofinancées, puisque c'est à la fois une ONG et en même temps, elle a dans son escarcelle 18 entreprises dont l'ensemble des bénéfices sont réinvestis dans des actions sociales. Donc du coup, on voit qu'effectivement, d'un côté, on a un système du Nord qui a un mode de financement qui est extrêmement rigide et effectivement qui est difficile à appréhender et dans lequel les ONG du Sud ont du mal, justement, comme disait Michel Maietta, à se structurer et en même temps à s'adapter à ces normes qui sont assez restrictives. Et en même temps de ça, on voit effectivement que la créativité, l'inspiration, la nouveauté, elle vient du Sud et du coup, c'est une excellente nouvelle puisque c'est du Sud que justement émergent des nouvelles formes de financement et des nouvelles formes du coup d'intervention.
Quand vous dites nouveauté, ce que j'entends, c'est des organisations qui sont finalement plus novatrices dans leur façon de faire et dans leur, leur capacité de, d'action et de réaction.
Alors, en tous les cas, là, je parlais de nouveauté en termes de capacité de financement, en fait, voilà, de créativité sur les sources de financement et sur le fait de se dire aujourd'hui, les crises sont de plus en plus nombreuses, il y a de moins en moins d'argent, donc il va falloir, à un moment ou à un autre, être créatif dans la façon dont on va trouver l'argent pour pouvoir répondre aux crises. Et du coup, je trouve que dans cette nouvelle forme là, d'ONG qui vient du Sud et qui est une énorme ONG aujourd'hui, BRAC, c'est intéressant parce que c'est une démarche aujourd'hui que les ONG françaises, par exemple, ne font pas et sur lesquelles elles sont extrêmement frileuses sur voilà, le lien entre le non-profit et le profit, en fait. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une hybridation qui a été faite dans cette ONG-là qui est extrêmement intéressante.
Maria Gabrielsen, Jambert, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Je sais qu'en tout cas, vous vouliez reprendre le relais sur la notion des nouvelles technologies qui changent les équilibres de pouvoir entre ceux qui apportent l'aide et ceux qui la reçoivent. Maria Jambert.
Tout à fait. Et c'est surtout en termes de comment donner un rôle aussi aux populations civiles, aux populations victimes de conflits ou de catastrophes naturelles qui peuvent aujourd'hui souvent grâce à des technologies assez basiques, des téléphones portables, peuvent eux-mêmes communiquer l'état des lieux de la situation. On a vu après le tremblement de terre en Haïti, après le typhon aux Philippines, que les victimes se retrouvent tout d'abord donc à envoyer des SMS pour indiquer où ils se trouvent, mais ils peuvent aussi contribuer avec de l'information sur où se trouvent les besoins, leur nature, etc. Et c'est une nouvelle façon d'accéder aux populations pour mieux comprendre l'état de la situation. Et ça, cela peut être un outil extrêmement puissant pour les acteurs humanitaires qui interviennent, pour plus rapidement savoir où sont les besoins, leur ampleur, leur nature, etc. Donc pour rendre cette aide humanitaire plus efficace et mieux adaptée. Mais c'est l'utilisation de ces technologies d'information et de communication pose aussi des défis en termes de protection des données personnelles, par exemple, qui est une question qui se pose aussi avec beaucoup de force sur des terrains de crise et de conflit. Puisque si on n'a pas un système qui permet la bonne protection des données personnelles, une réidentification de personnes qui ont alerté à propos d'une confrontation, de violence, etc., cela peut revenir sur eux si ces personnes-là sont réidentifiées. Donc ça peut avoir des conséquences désastreuses.
Donc toujours de la prudence. Vous souhaitez réagir, Micha Maietta, sur ce que vient de dire Maria Jambert ou...
Je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut redéfinir les rôles et la gouvernance globale de ce système, le rééquilibrer par rapport à un monde qui aujourd'hui est post-globalisé avec des processus aussi de régionalisation très particuliers. Donc la réalité géopolitique aujourd'hui impose le système humanitaire à se repenser.
Alors, vous me tendez une perche. Redéfinir le rôle et la gouvernance de l'humanitaire aujourd'hui. Il y a un sommet mondial de l'humanitaire qui se profile à l'horizon, le fameux SMH qui est organisé par l'ONU. Il aura lieu en 2016. Est-ce que, précisément, c'est ce qu'il faut attendre de ce sommet mondial de l'humanitaire, une redéfinition du rôle et de la gouvernance?
En tout cas, nous l'attendons. Je pense que c'est attendu aussi de la part de la plupart des parties prenantes de ce sommet. Après, aujourd'hui, il y a même dans l'organisation de ce sommet, il y a des questions à se poser. Ça reste un sommet qui a été de l'initiative d'une structure quand même occidentale, qui est la structure onusienne. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des très fortes poussées de la part des ONG du Sud à l'intérieur de ces consultations pour que leur voix soit entendue de manière plus effective, plus forte. Des revendications même très clairement pour avoir des représentations au sein de l'ONU, des représentations spécifiques qui représentent les ONG du Sud. Donc disons que le dialogue en cours montre des signes assez encourageants. Moi personnellement, je reste encore très sceptique en termes de l'espace qui est dédié à ce dialogue et je suis dans l'attente de voir que ce sommet effectivement s'y permet véritablement de remettre un nouveau paradigme dans le système.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on l'a compris parce que c'est évoqué depuis le début de cette émission, une multiplication des crises, multiplication des organisations non gouvernementales. Celles du Nord sont venues s'ajouter celles du Sud, bien évidemment. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va vers un humanitaire de plus en plus local? En tout cas, avant de répondre peut-être à cette question, puisque tout ça est devenu très complexe, qu'est-ce que serait une bonne gouvernance mondiale de l'humanitaire? Est-ce qu'on en a une idée qui veut répondre à cette question peut-être un petit peu difficile quant à la réponse à y apporter, Stéphanie Stern?
Alors, je pense que la réponse, on la trouvera pas tout de suite. Et ça, c'est dommage, mais malheureusement, sinon, je pense qu'on l'aurait déjà mise en place. Non, je pense qu'une bonne gouvernance, c'est compliqué à savoir exactement en quoi elle pourrait consister. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir certainement une redéfinition de qui fait quoi et comment on fait les choses. Et je pense qu'il va y avoir effectivement peut-être une redistribution un peu peut-être plus équitable du pouvoir global, en fait. Hein, justement, on parlait de multipolarisation du pouvoir, on va dire, politique. La même chose va se passer au niveau des ONG, enfin au niveau des acteurs humanitaires. Parce que je pense qu'il est important aussi de préciser que, à mon sens, les acteurs humanitaires d'aujourd'hui ne seront pas forcément les acteurs humanitaires de demain. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement les ONG, mais les ONG ne sont pas les seules qui devraient avoir un rôle social et d'aide dans cette configuration mondiale. Je pense que les États aussi ont leur responsabilité à prendre et qu'aujourd'hui les États ne les prennent pas suffisamment. Et que la société civile et les entreprises, par exemple, je sais que c'est un mot effectivement qui est un petit peu parfois pas très accepté par le monde humanitaire, mais malgré tout, je pense que les entreprises ont également un rôle social important à jouer et qu'aujourd'hui, on ne leur laisse pas forcément l'espace pour le faire. Et en tous les cas, il y a, à mon avis, des possibilités et des fenêtres d'opportunités. Après, aux ONG, effectivement, d'arriver à canaliser ça pour qu'il n'y ait pas un détournement à des fins, on va dire, mercantiles. Mais malgré tout, je pense que voilà, il y a aujourd'hui une potentialité d'appétence vers du social. On le voit aussi, même rien qu'en regardant l'essor de la RSE aujourd'hui, l'essor de l'entreprise solidaire, la volonté qu'ont les individus aujourd'hui d'avoir une approche plus éthique de ce qu'ils font et de la façon dont ils travaillent, dont ils consomment. Tout ça, à mon avis, exprime effectivement aujourd'hui une volonté sur laquelle il faut absolument surfer pour que l'aide internationale, la solidarité, soit quelque chose qui soit appréhendé par la société dans son intégralité.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, Stéphanie Stern, c'est d'abord, est-ce qu'il y a la place pour tout le monde? Vous évoquez les ONG, alors les ONG du Nord, on en a parlé, les ONG du Sud, les États, les entreprises qui sont tout de même de plus en plus présentes. Alors, ce mot mercantile qui fait un peu fuir tout le monde, il n'empêche que les ONG sont elles-mêmes de plus en plus des structures véritablement professionnelles. De la place pour tout le monde, Maria Gabrielle Saint-Gimbert.
Tout à fait, je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir de l'action humanitaire et notamment aussi de réfléchir à des manières de fournir cette aide qui passe notamment par l'inclusion de nouveaux acteurs mais aussi de nouvelles façons de penser la collecte de fonds, la distribution. Il faut avoir un horizon ouvert pour réfléchir à l'avenir de la gouvernance humanitaire.
Michel Mayette, à vous, partagez ce qui vient d'être dit. Après ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la guerre contre le terrorisme et de voir son impact sur les questions.
Non, bien sûr, professionnalisation a amené des gros changements dans le système humanitaire. Il ne faut pas oublier, le système humanitaire est un sous-système d'un système global. Et si on a une vision, aujourd'hui, en analysant les dynamiques géopolitiques avec ces phénomènes de régionalisation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit avant, on va certainement assister à un thème non seulement de gouvernance, parce que la gouvernance va s'imposer, mais un thème de réponse à une sorte de régionalisation de cette réponse qui va se coordonner entre des multiples acteurs, y compris le secteur privé. Ils sont déjà des acteurs présents sur le terrain et dans certaines crises, ils sont très actifs et ils ont un impact très important. Sur l'émergence de nouveaux acteurs, il y a les entreprises, mais il y a aussi des acteurs non étatiques qui sont en train d'émerger comme partie prenante de contextes humanitaires compliqués, des acteurs non étatiques que nous ne maîtrisons pas et qui rend aussi l'accès très compliqué et difficile.
Vous pensez à qui concrètement, Michel Mayetta?
Mais vous avez Boko Haram en Afrique subsaharienne, vous avez Daesh en Moyen-Orient, c'est des acteurs non étatiques qui existent exerce quand même une forme de souveraineté territoriale, même si il y a encore, elle a des formes assez très particulières et embryonnales. Mais du coup, comment le système humanitaire se relate par rapport à ces acteurs non étatiques? C'est un vrai problème d'accès aujourd'hui, et la crise syrienne cristallise en fait l'ensemble de ces phénomènes.
Stéphanie Stern.
Oui, je suis d'accord avec ce que Michel Maïeta vient de dire, et en plus, donc du coup, ça cristallise et en même temps, du coup, ça complexifie aussi d'abord la compréhension des populations locales par rapport à une intervention humanitaire, parce que ce soit Daesh ou Boko Haram, mais surtout Daesh et tous les mouvements islamistes, ils ont quand même une forte emprise et approche sociale en fait dans leur démarche, et donc du coup, souvent, effectivement, la première étape va être par une assistance aux populations en termes de voilà. Alimentaires, de soins médicaux, etc. Donc du coup, voilà, en plus ils se positionnent effectivement sur le secteur humanitaire, ce qui complexifie après la compréhension que les populations locales peuvent se faire de, voilà, de différencier entre à la fois des acteurs politiques, des groupements en fait qui du coup sont quand même des groupements terroristes, des ONG, et puis après aussi des États qui arrivent avec aussi des agendas propres, etc. Donc une militarisation aussi de l'aide humanitaire. Donc, qui fait que du coup, tout ça participe à un brouillage d'ensemble de la compréhension que les populations locales peuvent avoir de l'action humanitaire.
En tout cas, là aussi, ce que vous évoquiez, Michel Maïeta, cette régionalisation, elle vient complexifier la question. La guerre, justement, alors, contre le terrorisme, est-ce que, d'après vous, Maria Gabrielle Saint-Gimbert, elle est en train, d'une certaine manière, d'entraîner la déconstruction de l'ordre international humanitaire?
Oui, je pense que aussi. Oui, qu'il y a un vrai défi dans cette, à la fois dans le terrorisme lui-même, dans les questions liées au terrorisme et toute la réponse, la guerre contre le terrorisme qui repose fondamentalement sur la question de quel ordre mondial va-t-on voir émerger dans les années à venir. Et je pense que, puisqu'on parle d'humanitaire, je pense qu'une question fondamentale pour l'action humanitaire à l'avenir, ce sera de réfléchir à ou de protéger en quelque sorte ce que le terme humanitaire veut dire, le sens que nous voulons y apporter, puisque tout particulièrement dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, on voit que le terme humanitaire est sous le risque d'être politisé par différents types d'acteurs qui eux-mêmes s'approprient le terme humanitaire. Ils vont dire que ceci est la branche humanitaire de telle et telle organisation. Beaucoup des jeunes citoyens européens qui sont partis en Syrie, par exemple, vont souvent dire qu'ils sont partis pour apporter leur soutien à l'aide humanitaire en Syrie. Donc qu'est-ce que ce terme humanitaire veut dire dans ce contexte-là? Et comment est-ce que on peut faire pour protéger, pour préserver cette idée d'humanitaire comme une aide impartielle, neutre, indépendante, qui vient en assistance aux victimes et qui n'est pas une aide ou un instrument politique dans un conflit.
C'est un sujet qui nous permet de conclure cette émission. Michel Maïeta, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Non, mais l'humanité a été le principe qui a inspiré l'origine de ce système humanitaire. Cet mot humanité et ce principe humanité a été aujourd'hui, il est manipulé par plusieurs acteurs. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer l'identité humanitaire du système et la réinventer. C'est une vraie nécessité.
Stéphanie Stern.
Oui, voilà. Bah, écoutez, je pense que tout a à peu près été dit. Et voilà, je pense que l'important, c'est de réinjecter de l'humain et de l'humanité, justement, dans l'humanitaire.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Maria Gabrielle Saint-Gimbert, directrice de recherche au Peace Research Institute d'Oslo, Stéphanie Stern, chercheur à l'IRIS, et Michel Maïeta, directeur du département d'analyse stratégique d'action contre la faim et chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, dont le dernier numéro de la revue internationale et stratégique était donc consacré à la question humanitaire. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.